Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Émilie Julia.
Bonjour, physico-chimiste facétieux, il met au service de la gastronomie sa science, et c'est peu dire puisque directeur scientifique de la Fondation Sciences et Culture Alimentaire de l'Académie des Sciences, conseiller scientifique de la revue Pour la Science, membre correspondant de l'Académie d'Agriculture de France et j'en passe, il s'intéresse aux transformations culinaires et va même en créer un tout nouveau concept, la gastronomie moléculaire, en association avec le physicien britannique Nicolas Curti en 1988. Et la cuisine devient de l'amour, de l'art, de la technique. Hervé Tisse explique avec humour et non sans sérieux comment réaliser des plats avec perfection. Tout un programme où on se régale avec notamment le chocolat chantilly ou le simple œuf dur mayonnaise et on découvre que les aliments exhibent certaines propriétés qui sont a priori difficiles à prédire. La science culinaire à la portée de tous, c'est le pari que se lance Hervé Tisse qui nous fait l'honneur de nous retrouver aujourd'hui. La gastronomie moléculaire, qu'est-ce que c'est? Une activité scientifique centrée sur la cuisine, une discipline scientifique. Nous l'évoquerons bien sûr avec son inventeur dans un instant. Hervé Tisse qui a publié le mois dernier « Construisons un repas » aux éditions Odile Jacob en collaboration avec Marie-Odile Monchicourt. Hervé Tisse, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Alors, pourriez-vous mieux nous définir ce qu'est la gastronomie moléculaire?
Alors, réponse oui, je peux. mais avant ça, en vous entendant, j'ai pris plein de notes. Enfin, j'ai déjà au moins une dizaine de lignes de notes parce qu'il y a des choses très intéressantes à dire. Un jour, je devais faire une conférence à la scène nationale de Mélan, à Grenoble. Et alors, dans la voiture, Serge Pérez, qui est directeur du CERMAV, le centre du CNRS pour l'étude des macromolécules végétales, me dit « Oh, tu sais, c'est bien ce que tu fais, mais enfin, tu sais, il y a des collègues qui disent que tu fais le mariol. » C'est le mot facétieux qui a suscité cette réflexion. Alors, je dis « Ah bon, alors, je le sais dans le fond, parce que je le sais parce que quand je fais une conférence, j'essaye de faire que le public s'amuse. » L'enseignement des sciences, ça peut être quelque chose de terriblement ennuyeux et ça peut être une espèce de jubilation extraordinaire. Et donc, en conférence, on n'est pas là pour embêter les gens, on est là pour qu'ils s'amusent, parce qu'ils apprendront beaucoup plus s'ils s'amusent. Alors, ce jour-là, j'ai réglé ma montre, et j'avais réglé 7 minutes de montre, et j'ai commencé à faire une conférence très, très ennuyeuse. C'est-à-dire, je me suis posé à un endroit, je n'ai pas bougé, j'avais le visage fermé, et pendant 7 minutes, j'ai montré des molécules que j'avais dans mon ordinateur sur le PowerPoint, enfin, donc des molécules compliquées, j'utilisais des mots de plus de 4 syllabes, et au bout de 7 minutes, alors tout le monde me regardait stupéfait, parce que les gens étaient venus pour s'amuser précisément, et au bout de 7 minutes, mon réveil a sonné, donc je l'ai mis près du micro, donc tout le monde a entendu que ça sonnait, et je dis voilà, c'était un coup monté, parce que vous comprenez, je voulais vous montrer, qu'il y a des collègues qui disent que je fais le mariole, donc je peux vous montrer que je peux être très emmerdant. Alors je l'ai fait pendant 7 minutes, et maintenant je vous propose de voter, est-ce que vous voulez que je continue étant ennuyeux, ou est-ce que vous préférez qu'on s'amuse un peu? Parce que dans le fond je dirais la même chose, c'est ça la question. Alors évidemment, la salle toute entière, c'est-à-dire je sais pas, il y avait 600 ou 700 personnes, a levé la main en disant on veut s'amuser, bien évidemment. Et c'était plus amusant pour eux comme pour moi. Donc, La Fontaine le disait déjà, hein, si Podane m'était compté, j'y prendrais un plaisir extrême. Il faut raconter des histoires, il n'y a pas de raison de s'ennuyer. La science, c'est quelque chose de tellement extraordinaire qu'il ne faut surtout pas gâcher une seconde de la promouvoir, de l'aimer, d'en jouir au sens jubilaré, c'est-à-dire vraiment être... Alors, facétieux, c'est une façon de sourire, c'est-à-dire une équation différentielle, nous en sommes à une époque où il faut montrer que c'est quelque chose de digne et d'amusant. D'amusant, au point qu'il y a des gens qui s'amusent. C'est-à-dire que je suis payé au laboratoire pour m'amuser. Si je ne m'amuse pas, je m'ennuie. Si je m'ennuie, je ne fais rien de bien. Et donc, il faut que je m'amuse. En tant que scientifique. Hein, et en résolvant des équations différentielles. Il y a une sorte de terrorisme actuellement, terrorisme culturel qui dit le match de foot à la télé. Mais non, ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est quand même d'avoir un truc entre les deux oreilles qui s'appelle un cerveau et on va s'amuser en le faisant marcher. Alors, du coup, là, je prends le public par la cuisine, en quelque sorte, et c'est ça le but des actions de communication. Parce que dans la vie, je distingue ce qui est de la communication, écrire un livre, faire un article, même scientifique, hein, c'est de la communication. communication, faire un cours, faire un séminaire, et puis ce qui est le vrai travail. Enfin, le vrai travail, c'est, ça veut dire produire de la connaissance nouvelle. Mais dans la communication, il faut s'amuser absolument. Et à l'université, comme dans les grandes écoles, comme dans les séminaires, partout, il n'y a pas de raison de... Alors voilà pour facétieux. Alors évidemment... Alors, je vais vous en passer parce que sinon, je vous répondrai pas à votre question. Qu'est-ce que c'est que la gastronomie moléculaire? Et il faudra répondre, bien évidemment. À un moment, vous avez dit nouveau concept. Alors, j'ai fait une rectification en disant nouvelle discipline scientifique. C'est pas plus qu'un concept, c'est une discipline scientifique. Comme la biologie, l'histoire, la géographie. Ça, c'est pas une discipline scientifique. Hein, c'est des disciplines, mais pas scientifiques. Pour moi, la science, Je sais cette espèce d'opposition entre les sciences humaines et sociales, les sciences exactes. Bon, j'y peux rien. Pour moi, la science, c'est la méthode expérimentale. C'est Galilée, c'est Bacon, c'est Bernard Palissy, d'une certaine façon. Donc, elle est expérimentale. Et elle a une méthode qui est la méthode expérimentale. Alors, je ne néglige pas les sciences humaines et sociales. Je dis qu'on peut faire aussi cette même méthode dans d'autres disciplines. Alors, je reviens maintenant à la gastronomie moléculaire. C'est donc une discipline scientifique qui n'existait pas. Qui n'existait pas avant 1988 pour la simple raison que le mot n'était pas forgé. Il y a eu le même parallèle avec la biologie moléculaire. Et la biologie existe depuis très longtemps. Mais avant les années 80, il n'y avait pas de biologie moléculaire. Il y avait de la biologie. Et puis ensuite est venu du génie génétique. Et puis le génie génétique, c'était un travail de technologie, c'est-à-dire d'ingénieur. Mais il y avait un travail scientifique qui est né, qui est la biologie moléculaire. Alors à la même époque, moi, je faisais la remarque qu'il y avait la science des aliments. Cette science des aliments, elle se préoccupe des aliments depuis longtemps, mais c'était une espèce de fourre-tout dans lequel on mettait de la technologie, encore une fois. Avec Nicolas Curti, qui était un ancien président de la Royal Society en Angleterre, on s'est dit, mais c'est étonnant. Non, il n'y a pas de science de la transformation culinaire. Il y a des phénomènes, la science cherche les mécanismes des phénomènes, donc cherchons les mécanismes des phénomènes en cuisine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas comment les montagnes... c'est pas que la formation des montagnes ne m'intéresse pas, mais ma science, la gastronomie moléculaire plus exactement, ne se préoccupe pas de l'érection des chaînes de montagne. Elle se préoccupe du brunissement du steak, de la constitution de la mayonnaise, de tas de choses. Il y a beaucoup de phénomènes. Ces phénomènes, mon objectif n'est pas de faire la mayonnaise ou de faire brunir les steaks, ça je m'en fiche, parce que ça c'est de la technique. Mm-hmm. Mon phénomène, c'est pas même de faire mieux brunir les steaks, parce que ça je m'en fiche aussi, ça serait de la technologie. Bon, ma question, c'est de dire, le steak bruni, pourquoi ? Voilà. Et ça vient de la science si on cherche les mécanismes. Alors, comme disait Louis Pasteur, le grand Louis Pasteur, qui toute sa vie a lutté, il n'y a pas de science appliquée, il y a la science, il y a les applications de la science qui sont liées l'un à l'autre comme l'arbre et le fruit. La science, c'est l'arbre, la technologie, c'est le fruit. Et je m'étonne qu'aujourd'hui, par exemple, en France, il y a des grandes écoles qui s'appellent INSA. INSA, Institut National des Sciences Appliquées. Mais enfin, on a oublié Louis Pasteur ou quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Alors, la gastronomie moléculaire, ce qui est terrible, c'est que le jour de ma thèse, devant donc deux prix Nobel, hein, qui sont Pierre-Gilles Le Jeune et Jean-Marie Lène, plus d'autres, il y avait le patron de l'INRA, il y avait le patron du CNRS, il y avait plein de gens, il y avait 400 VIP scientifiques. Ce jour-là, j'ai proposé le programme de la gastronomie moléculaire et ce programme était complètement foireux parce que précisément, j'y mêlais de la technologie avec de la science. Il m'a fallu 20 ans pour comprendre que la gastronomie moléculaire, c'est uniquement la recherche des mécanismes de tous les phénomènes qui se produisent en cuisine ou à table, pour parler large. Belle Alors, définition. Ça peut être le brunissement du steak, ça peut être le fait que le vin tannique de Bordeaux paraisse très astringent quand on le boit en mangeant une salade un peu acide. Est-ce que on enlève une tache de vin sur la nappe en y mettant un peu de sel ? Vous voyez, c'est du quotidien, c'est des phénomènes du quotidien. Que ce soit du quotidien, on s'en fiche un peu, mais c'est des phénomènes qu'on a sous les yeux. Ces phénomènes, ils appellent une science et c'est la gastronomie moléculaire. Alors après, je pourrais rentrer dans le détail pour le programme nouveau, mais on va s'arrêter là.
Venons-en peut-être à l'Académie des sciences. Donc la science à la portée de tous, c'est un petit peu votre fer de lance de la cuisine. Comment êtes-vous arrivé à l'Académie des sciences ?
Ah, comment je suis arrivé à l'Académie des sciences ? Alors d'abord, je ne suis pas à l'Académie des sciences, il faut bien le dire, je ne suis pas membre de l'Académie des sciences.
Tout à fait, vous êtes directeur scientifique de la
Fondation Sciences et Culture Alimentaire créée par l'Académie des sciences. Alors ça s'est passé de façon tout à fait amusante. D'abord, Guy Ourisson, qui est maintenant décédé et qui a été président de l'Académie des sciences, était mon oncle. Bon. Alors, je ne pense pas qu'il y ait eu de prévarication ni quoi que ce soit, simplement, ça faisait... D'abord, il était mon oncle et on ne le savait pas. Pendant 20 ans, il m'a aidé à faire la promotion de la chimie sans savoir qu'il était mon oncle et moi sans savoir que c'était mon oncle. Simplement, je faisais la promotion de la chimie parce que je l'ai toujours fait, que la chimie est une science extraordinaire qui mérite une considération qui soit autre chose que cette espèce de dédain du style « la chimie, ça pue, ça pète, ça empoisonne et ça pollue ». Voilà. Alors, d'abord, ça n'est pas vrai que la chimie pète, empoisonne, pollue, parce que la chimie est une science, donc elle produit des connaissances. Et les connaissances ne puent pas, ne pètent pas, n'empoisonnent pas et ne polluent pas. Donc il ne faut pas confondre la science et ses applications, et les applications qui en est responsable, ce sont ceux qui font les applications. Donc, pour prendre une métaphore, Pierre et Marie Curie ne sont pas responsables d'Hiroshima. Ceux qui ont fait Hiroshima, c'est ceux qui ont fait la bombe et ceux qui l'ont lancée. C'est pas Pierre et Marie Curie, c'est pas la science. Et c'est beaucoup trop facile, quand il y a une espèce de catastrophe, de dire, ah ben, vous voyez, AZF à Toulouse, en disant, ah tiens, c'est la chimie qui a fait péter Toulouse. Non, mille fois non, comme dirait Louis Pasteur, c'est pas la chimie qui a fait péter Toulouse, c'est des gars dans une usine qui ont fait péter Toulouse. Et la chimie, elle, est une science merveilleuse. Alors, cette idée que la chimie est une science extraordinaire, je crois qu'il faut la dire beaucoup. Il faut sans doute rectifier une fausse idée que de la chimie qui serait une science de bidouille, où on mettrait un petit produit dans un autre petit produit, puis on mélangerait, ça changerait de couleur, etc. Non, c'est pas ça. La chimie, c'est la recherche des mécanismes des transformations chimiques, donc vous voyez encore. Donc c'est une vraie science, et ça mérite beaucoup d'intérêt, parce que la recherche des mécanismes, c'est ça la science, c'est merveilleux. Alors, donc je faisais ça, ce discours, je le tiens depuis maintenant 30 ans, et Guy Aurisson, l'ayant bien vu, un jour m'a, en 90 novembre 99, me dit « Hervé, est-ce que tu ferais une conférence au Cercle de l'Académie des Sciences ?» Alors, j'étais très honoré, bien évidemment, donc je dis « Bien sûr ». Et c'était le moment où Pierre Gagnaire, grand cuisinier, me dit « Hervé, est-ce que tu m'aiderais, est-ce que tu veux travailler avec moi ? Est-ce que tu veux jouer avec moi ?» Et alors, ce qu'on a fait, c'est que j'ai fait ma conférence au Cercle de l'Académie pendant qu'on servait un dîner que Pierre Gagnaire avait réalisé sur des inventions que j'avais faites. Alors, invention égale technologie, je suis bien d'accord, je me suis dévoyé, mais... Au début de la gastromoléculaire, il fallait montrer que cette science pouvait avoir des applications. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait. Et puis, on a pas arrêté. Donc, tout ça s'est développé très bien. Donc, j'étais dans l'académie par Guy, le secrétaire général, etc. Et puis, un jour, il y avait cette maison de Louis Pasteur à Arbois, qui est une maison qui appartient à l'Académie des sciences. Et l'Académie des sciences me dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire autour de cette maison pour la faire vivre, pour l'animer? Et alors, comme j'ai beaucoup d'idées, bah, par exemple, vous voyez, Louis Pasteur est connu pour avoir trié à la pince des cristaux qui étaient comme des cristaux main gauche ou main droite. Vous voyez, la main gauche et la main droite, vous ne pouvez pas les superposer. Donc, si vous ne pouvez pas superposer, ce n'est pas les mêmes mains. Et on le sait, une main gauche, ce n'est pas une main droite. Vous ne pouvez pas mettre un gant de main gauche sur une main droite, et inversement. Alors, Louis Pasteur, son premier vrai fait d'armes chimiques, c'est ça. C'est à la pince, au microscope, d'avoir fait ça. C'est ahurissant que... aucun d'entre nous n'ait fait ça. C'est-à-dire qu'on prétend admirer Louis Pasteur, mais on n'a même pas fait ça. Et ça, il faut le faire dans les écoles, au minimum, et puis il faut le faire dans la maison de Louis Pasteur. Alors immédiatement, comme l'Académie des sciences me dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire vivre, je dis faisons venir des classes avec des enfants et faisons-leur trier à la pince en leur expliquant pourquoi c'est important, par exemple. Mais alors, des idées comme ça, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je manque de secondes tellement j'ai d'idées, et malheureusement, et j'ai qu'une vie, et c'est ça qui va être terrible, à plus simple informé. Alors, du coup, je suis revenu d'Arbois de cette visite en ayant des idées, et il se trouvait que les conditions ont été réunies pour que le conseil régional me mandate pour leur faire quelque chose, une proposition, et que l'Académie des sciences aussi. Donc Jean Bercourt, à l'époque, a été très très amical et enthousiaste en acceptant immédiatement ce programme qui s'appelait Louis Pasteur Alimentation Santé, qui est devenu le premier pôle régional de cette fondation qu'on a créée et qui a vocation de faire des pôles régionaux dans toutes les régions. Alors, ce pôle de la Franche-Comté fonctionne très très bien, il y a des ateliers, il y a des séminaires, enfin, Canal Académie, par exemple, a retransmis la grande conférence de Jean-Marie Laine à Besançon dans le cadre de cette fondation. En ce moment, on est en train de construire des pôles, par exemple, dans quelques jours, on va à Amiens, avec le recteur, construire un pôle Picardie, ensuite on ira en Bretagne, ensuite... Enfin, donc tout ça se met en place, le conseil scientifique est nommé, le conseil d'administration est nommé, et ces deux instances m'ont nommé directeur scientifique de cette fondation qui a des donateurs, qui a donné des sous. Il nous en faut encore plus parce qu'on fera des choses encore mieux. C'est pas essentiel parce que c'est une question d'énergie, d'industrie au sens industrieux, hein, et puis d'idées. Et ça, je vous dis, les idées, les envies autour de la science et de la cuisine. Quand la science est tellement belle et la cuisine est tellement extraordinaire que je comprends pas comment ça pourrait ne pas marcher.
Donc je vous propose de faire une pause pour le moment. Nous reprendrons dans deux petites minutes.
Les avancées dans la recherche médicale et les espoirs thérapeutiques de demain, Canal Academy vous propose une douzaine d'émissions sur ce thème. Quand l'imagerie médicale permet de lutter contre le cancer, quand la technique satellitaire peut servir à guérir en Afrique, quand la chirurgie appose une greffe sur un visage, mais aussi quand les médecins et les philosophes s'interrogent sur le clonage thérapeutique et la bioéthique. Soyez à la pointe des dernières découvertes et avancées médicales grâce au travail de diffusion du savoir par l'Académie des sciences.
Donc nous accueillons Hervé Thys et nous continuons notre interview. Hervé Thys, quelle leçon de gastronomie moléculaire nous donneriez-vous en premier ?
Ah, ça c'est une question piégée, parce que, enfin, je ne dis pas que vous me tendez un piège, je dis simplement qu'elle est double en vrai. Parce que ce que vous voulez, c'est une application de la gastronomie moléculaire. Or, la gastronomie moléculaire étant une science, ce que je devrais vous répondre, c'est de la science. C'est-à-dire, vous voyez, je vais prendre un exemple de travail qui se fait au laboratoire. Une personne du laboratoire fait une thèse sur le bouillon de carottes. Voilà. Le bouillon de carottes, c'est un truc très simple, hein. Vous prenez des carottes, vous les coupez en rondelles, vous les mettez dans de l'eau et vous chauffez. Bon. Alors, dit comme ça, ça a l'air très ennuyeux et ça l'est. Donc, la question de la science, c'est aussi de donner du sens à l'affaire. Parce que, dans le fond, combien de carottes par rapport à l'eau ? Des carottes tout coupées en rondelles, de quelle épaisseur ? De l'eau chauffée à quelle température ? Un couvercle, pas de couvercle, chauffé comment ? Est-ce que la montée en température est importante ? Est-ce qu'on le met dans l'eau froide ? Est-ce qu'on le met dans l'eau chaude ? Tout ça, c'est des choses qui ont été discutées depuis des siècles dans les livres de cuisine et qui n'ont pas trouvé de solution parce que personne n'a étudié le bouillon de carottes. Alors, il est insensé que nous envoyions aujourd'hui des sondes sur Mars et que nous ne sachions pas. On sait ce qui sort d'une carotte quand on fait un bouillon. On ne sait pas comment ça sort. Alors ça me passionne, voilà. Alors, mon hypothèse, c'est que, pour vous dire les choses simplement, au bout de 3 ans, au terme de 3 ans... Non, je ne vais pas vous donner le résultat tout de suite. Je vais d'abord vous raconter que Lavoisier, le grand Antoine Laurent de Lavoisier, lui-même, membre de l'Académie des sciences, un des plus, le père fondateur de la chimie française, Lavoisier a étudié le bouillon de viande. Et il a fait une publication, alors sauf erreur, c'est en 1783, excusez-moi. Cette publication de Lavoisier, je l'ai reprise, je l'ai refaite, j'ai refait les expériences, et on a publié il y a un mois ou deux, dans les comptes rendus de l'Académie des sciences, un article où on reprend les résultats de Lavoisier en les commentant et en se demandant est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est pas bien fait. Et c'est pas très bien fait, simplement le grand Lavoisier s'est posé les bonnes questions, et en plus c'était un gars très très malin, ses calculs sont foireux, il aurait un zéro s'il était noté aujourd'hui dans une université, mais nous sommes des nains perchés sur les épaules des géants. Hein. Et Lavoisier, c'est quand même un géant, et moi, je suis quand même un nain. Donc, il faut quand même pas oublier qu'on est arrivé bien après lui. Alors, pour revenir à la carotte, la question est la suivante, c'est que...
Nous sommes impatients de savoir comment élaborer.
Au bout de trois ans, non, ce qui sort d'une carotte, d'abord, ça, soyons simples, c'est en gros 3 sucres, qui sont le glucose, le fructose et le saccharose. Le saccharose, c'est le sucre de table. Les 2 autres sont des sucres simples. Par exemple, le glucose, c'est un sucre qui circule dans le sang et qui sert de carburant pour nos cellules vivantes de l'organisme. Il y en a dans la majeure partie des fruits. Le fructose, c'est le sucre des fruits, en quelque sorte. Alors, il y a tout ça dans le miel, il y a tout ça. Bon. C'est un mélange, ça a des saveurs très différentes. Ça sort de la carotte. Alors, il sort aussi... Alors, dans cette thèse, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé par résonance magnétique nucléaire, RMN, on a regardé des bouillons de carottes, en quelque sorte. Alors, on sait qu'il sort aussi des acides aminés. Alors ça, c'est intéressant, parce que vous voyez, le monoglutamate qu'utilisent les restaurants chinois, c'est un acide aminé. Enfin, disons, l'acide glutamique est un acide aminé. Et les acides aminés, ils ont beaucoup de saveur. Donc, le bouillon de carotte, il doit déjà sa saveur au sucre, aux acides aminés, aux ions qu'il y a dans l'eau, et puis il doit son odeur, parce que le goût, c'est la saveur plus l'odeur plus des tas de choses, à des tas de molécules qu'on a également analysées, et dont on a analysé la disparition en cours de cuisson, selon qu'on fait bouillir, selon qu'on ne fait pas bouillir. Vous voyez, il y a une opération chimique qui s'appelle l'entraînement à la vapeur d'eau. Alors, c'est une pratique courante dans tous les laboratoires, surtout à Grasse quand ils font des parfums, donc on est dans l'application, vous prenez une matière, par exemple de la sauge, vous la mettez dans l'eau, vous chauffez, l'odeur de sauge n'est pas soluble dans l'eau, donc elle vient se mettre au-dessus. Et c'est pour ça que vous sentez la sauge quand vous mettez votre nez au-dessus d'un bouillon de sauge, en quelque sorte. Mais si vous faites bouillir l'eau, la vapeur d'eau est entraînée vers le haut, et à ce moment-là, vous la récupérez, vous la condensez, et c'est une expérience qui se faisait dans le temps au Palais de la Découverte, on recondensait, et donc on a de l'eau, et il flotte par-dessus une espèce de truc gras, une huile,
Ça s'appelle une huile essentielle. Alors, c'est comme ça qu'on extrait les huiles essentielles. Alors, cet entraînement à la vapeur d'eau, il se trouve que, sans le savoir, en cuisine, il a lieu. Donc, on n'a pas intérêt à perdre toutes ces bonnes huiles essentielles. On a intérêt à les avoir dans la casserole. Donc, vous voyez, tout de suite, on était dans le mécanisme et immédiatement, on arrive dans l'application. Donc, vous me posiez la question gastronomie moléculaire. Donc, je vous ai répondu à mon sens, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la science qui fait que la bouillon de carotte. Mais vous voyez que tout de suite, on peut être dans la cuisine parce qu'on est dans l'application, parce qu'on est parti d'un phénomène très quotidien. Donc, on y revient très vite. Alors, donc, on sait maintenant la saveur, on sait l'odeur. Maintenant, il restera la question scientifique. Mais comment ça sort de la carotte? Où est-ce que ça se trouvait? Comment ça sort? Alors pour ça, il faut utiliser une méthode qui est, je vous le répète, la méthode expérimentale. Il faut calculer, parce que la science, c'est du calcul. Bien sûr, il y a des expériences, mais si on veut produire une théorie, si je vous dis des mots, hein, si je vous dis par exemple... les sucres de la carotte sortent des cellules où ils sont stockés. Bon, ça a une apparence de vérité, mais est-ce que c'est vrai? Ben, si on ne fait pas un calcul pour montrer que ça a une chance d'être vrai, c'est de la poésie, ça n'est rien d'autre. Et la science ne peut pas faire l'économie du calcul, d'ailleurs c'est son bonheur, c'est ça la méthode expérimentale. C'est, Galilée disait, le langage de la nature, c'est les mathématiques.
Alors,
donc il faut calculer.
Pour simplifier un petit peu donc, la carotte, qu'est-ce qu'il reste à dire?
Alors, qu'est-ce qu'il reste à dire? C'est la carotte, mais il reste plein de choses. En gros, l'hypothèse sur comment ça sort, c'est que je crois que dans les carottes, comme dans tous les végétaux, enfin, je sais qu'il y a des canaux. Vous voyez, la carotte, c'est une racine qui pompe des choses dans le sol et puis qui redescend de la tige cette sève. Alors, on appelle ça la sève brute et la sève élaborée. Et cette sève, elle contient tous les composés, genre sucre, qui sont des composés de stockage d'énergie pour la plante. Et quand vous coupez une rondelle de carotte, vous ouvrez en gros ces canaux par lesquels la sève circule. Et en gros, il me semble, après 3 ans de thèse, il me semble que quand on met des rondelles de carotte dans l'eau, ce qu'on extrait, c'est par diffusion, simple diffusion. Vous voyez, diffusion, ça veut dire vous mettez une goutte d'encre, de sirop de menthe d'encre dans un verre d'eau, au bout d'un moment, ça se disperse. C'est de la diffusion. Et bien, je crois que c'est de la simple diffusion du sucre qui est dans les canaux.
Des mécanismes très intéressants. Donc, dans votre dernier livre, donc, en collaboration avec Marie-Ville Manchicourt, qui est une consoeur journaliste, hein, journaliste scientifique, donc vous décrivez comment réaliser un œuf dur mayonnaise, un gigot et sa haricots verts.
Je ne suis pas sûr qu'on décrive ça. Ça, c'est l'apparence
alors,
de la chose.
C'est pour la partie concrète, pour le simple le lecteur, on va dire, lambda. Hein, ce livre, pourriez-vous nous en parler rapidement? La collaboration avec Marie-Odile Manchicourt s'est faite comment?
Marie-Odile avait une collection de livres où elle interrogeait des gens sur leur vie et leur œuvre, donc elle l'a fait pareil avec moi. Son idée, à elle, c'est que la science, elle doit s'incarner. C'est-à-dire que c'est plus... Elle pense qu'on attirera plus les jeunes à la science si on raconte comment les scientifiques vivent. Moi, j'aime pas trop cette idée-là. Donc, quand elle m'a produit les retranscriptions des interviews, c'est que c'est une amie. Donc, si elle m'interroge en me disant, mais enfin, quand est-ce que tu as commencé à faire de la chimie? Je lui réponds, à 6 ans, j'ai une boîte de petits chimistes, et puis mon argent de poche, je l'ai divisé en deux depuis l'âge de 6 ans. Hein. La moitié allait à acheter des produits de laboratoire chez ProLabo, qui se trouvait à l'époque en face du Collège de France. C'était ma vie, quoi. Tous mes week-ends, tout le temps, je faisais de la chimie. Ça m'amusait. Pour moitié, parce que l'autre moitié, c'était, je suis passionné de littérature depuis toujours. Parce que le grand Lavoisier nous a dit, la science, c'est les phénomènes. Les phénomènes, on les a par des pensées. Et les pensées, on les a par des mots. Conclusion de Lavoisier, on ne peut pas perfectionner la science sans perfectionner le langage et inversement. Voilà. Alors, du coup, me raconter ça, je sais bien, mais je suis un peu honteux de dire que j'ai eu une boîte de chimiste à 6 ans, parce que le moi est haïssable. Ça n'a pas valeur d'exemple. Il y a des gens qui sont chimistes qui n'ont pas eu boîte de petits chimistes à 6 ans. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça a un intérêt? Vous savez, c'est vedettes à la télé, Johnny Hallyday, on voudrait un bout de sa chemise. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est une sorte de fétichisme idiot. Donc je me suis refusé à répondre d'une certaine façon à Marie-Odile, et j'ai repris toutes ces discussions en les détournant avec le même projet qui était de dire la science. Alors, ce livre Construisant un repas, dans le fond, c'est pas un livre de gastronomie moléculaire, c'est pas un livre d'application de la gastronomie, c'est pas sur l'œuf dur mayonnaise, c'est pas sur le haricot vert, c'est pas sur le steak, c'est plutôt sur Vive la chimie. Voilà, ça pourrait être son sous-titre.
Un hymne à la chimie.
Oui, à la science en général. Parce que, en plus, une idée à laquelle je crois beaucoup, c'est que je déteste les frontières disciplinaires. Il n'y a pas de frontière entre la physique, la chimie, la biologie, c'est pas possible. C'est les mêmes méthodes, c'est les mêmes communautés. Et d'ailleurs, j'en prends pour exemple mon ami Jean-Marie Laine, pour lequel j'ai la plus grande admiration. Jean-Marie, il s'intéresse à tout. Et c'est parce qu'il s'intéresse à tout que c'est un grand monsieur. Et c'est une vraie leçon de voir. Et il s'intéresse à la musique, il s'intéresse aux arts, il s'intéresse à tout. Ça vaut le coup qu'on le dise. Il faut donner du sens aux choses. Ah, ça, il faut. Chacun fait ce qu'il veut.
En février 2006, vous collaborez, donc vous écrivez La cuisine, c'est de l'amour, de l'art, de la technique avec Pierre Gagnaire. Alors, nous sommes curieux de savoir également cette collaboration, comment s'est-elle faite? Et puis, Pierre Gagnaire qui est un grand monsieur, chef aux trois étoiles. Donc, en quoi a-t-il collaboré à ce projet?
Alors, ce projet...
Et en quoi se différencie-t-il du dernier livre?
Oui, alors ça, c'est facile. Alors, ce livre est un livre historique. On oublie les bandes Moltières et les chevilles qui enflent. Mais ce livre est vraiment un livre historique au sens littéral du terme parce que vous savez qu'en peinture, en musique, en littérature, il y a des traités d'esthétique. Esthétique, ça ne veut pas dire beau à regarder, hein, ça veut dire le beau en soi. En peinture, c'est le beau à regarder, mais en musique, c'est le beau à entendre. Alors, il y a donc des traités d'esthétique. En cuisine, jamais la question esthétique n'avait été posée. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous interrogez un grand chef, il vous dit, je vais mettre du basilic avec du romarin, et moi je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Alors, cette question esthétique, ils ne savent pas y répondre en général. Souvent, c'est de l'intuition, c'est je ne sais pas quoi, c'est de l'empirisme. Mais moi, je dis, d'autre part, il n'y a pas eu de traité d'esthétique culinaire. Alors, ce livre m'a pris très longtemps à écrire parce que j'ai d'abord lu tous les traités d'esthétique dans les autres arts et avec cette idée de dire qu'est-ce que je pourrais en faire en cuisine. C'est-à-dire, au Moyen-Âge, le vert, c'était la couleur de l'espérance parce que l'espérance, c'est la résurrection et la résurrection, c'est Dieu. Donc, au Moyen-Âge, on voulait louer Dieu. Au Moyen-Âge occidental, parce qu'ailleurs, c'était autre chose. Donc, le vert était une couleur qui s'imposait dans les œuvres d'art. Bon, alors, une idée, une application esthétique, ça serait de dire, on va faire un plat où il y a du vert. Mais ça serait une idée esthétique médiévale. Bon, le nombre d'or est une espèce d'absurdité numérologique. Enfin, le nombre d'or existe en mathématiques, hein, c'est un nombre bien déterminé. Après, il y a eu des applications esthétiques que je trouve un peu limites. En gros, on vous dit, si vous construisez une cathédrale, si elle est construite selon le nombre d'or, c'est-à-dire qu'en gros, la longueur est 1,6 fois plus grande que la largeur, ça va être beau. Ça serait trop facile si c'était beau à ce compte-là. Mais enfin, ça a été une idée porteuse à un moment. Donc, je me dis, tiens, on pourrait faire un plat au nombre d'or, et etc., etc. Parce que l'esthétique, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est une philosophie, c'est toujours réfuté par l'art. Parce que si l'esthétique est une production de loi, l'art, lui, qui est en train de dire tout le temps « abat les règles », abat en particulier les idées philosophiques sur l'esthétique. Alors c'est ça qui m'intéressait dans ce livre, c'est de dire « je vais donc faire un traité d'esthétique, et j'ai fait un traité d'esthétique ». Alors, en revanche, je ne suis pas aussi emmerdant que ça, excusez le gros mot. Parce que, ayant produit ce traité, le livre était écrit, il était écrit depuis très longtemps. J'avais donc fait ce travail important, qui a pris plusieurs années. Ayant ce livre sous les yeux, je me suis dit, mais je ne suis pas aussi ennuyeux que ça. C'est pas possible. Je ne pourrais pas faire que le monde culinaire s'intéresse avec quelque chose d'ennuyeux. Bien sûr, on aurait dit, ah, il est savant. Mais mon propos n'est pas de paraître savant. Soit je suis savant, et à ce moment-là, je le sais. Soit je suis pas savant, et je le sais aussi, et c'est pas l'opinion des autres qui va me faire savant ou pas. Or, je sais que je suis jamais assez savant. Donc, puisque je ne suis pas assez savant, ça serait une imposture de le montrer que je suis savant. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce que je peux faire pour transformer ce traité d'esthétique et en faire quelque chose qui soit plus agréable, accueillant, aimable? Eh bien, La Fontaine, si Podane m'était compté, j'y prendrais un peu. Racontons des histoires. Racontons une histoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on transforme ce traité en un roman. Alors, c'est pas la première fois qu'on fait ça, parce que Platon, c'est ce qu'il a fait, parce que Le Monde de Sophie, ce traité de philosophie récent, c'est ce qu'il avait fait, parce qu'on l'a fait souvent, ça, parce que nos grands penseurs des siècles de lumière l'ont fait aussi. Donc, j'ai fait un roman d'amour. Et comme je suis quelqu'un d'optimiste et qui aime beaucoup la vie, j'ai fait un roman d'amour qui finit bien. Voilà. Donc, ce traité d'esthétique est transformé en un roman d'amour. Une fois que le traité d'esthétique était transformé en roman d'amour, comme j'ai fait de l'édition dans le temps, je me suis dit, mais c'est pas suffisant. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils lisent plus beaucoup. Et moi, mon objectif, ce n'est pas de faire lire ceux qui lisent déjà, c'est de faire lire ceux qui ne lisent pas. Et je pense à beaucoup à mes cuisiniers, enfin mes cuisiniers, nos cuisiniers, les cuisiniers. Je vous assure que dans les cuisines, ce n'est pas toujours trois étoiles. Hein. Par exemple, j'ai un ami qui était chef du Prince de Galles, un grand hôtel. Un jour, il part et il dit à son équipe, « Ah, ce soir, il y a un banquet, donc pour les crèmes brûlées, vous multipliez tout par deux. » Eh bien, les gars, ils ont multiplié la température par deux. Donc, au lieu de cuire leur crème brûlée à 180 degrés, ils ont cuit à 360. Et évidemment, c'était cramé. Donc, ça veut dire que nous avons des gens qui sont artistes, mais qui n'ont pas d'éducation scientifique ni littéraire. Et donc, il faut écrire des choses qu'ils comprendront aussi. Et pour ça, le roman d'amour, c'est une bonne chose. Un dialogue, c'est encore mieux parce que c'est des toutes petites phrases. Hein, et c'est lisible partout, et puis c'est plus vivant, puis c'est plus facile à faire, parce que je ne suis pas un bon écrivain. Et puis finalement, il faut des images. Alors, les images, c'est assez un casse-tête, parce qu'en cuisine, les images, elles sont toujours menteuses. Quand on vous prend une photo de plat, dans un magazine, quel qu'il soit, c'est une photo qui a été construite. C'est-à-dire, jamais vous ne pourriez refaire, jamais vous ne verrez dans votre cuisine les plats que vous voyez sur des magazines. Il y a des gens qui sont payés pour faire du design de photos, hein, ils sont payés, ils ont un métier pour prendre des carottes, des navets marins et pour les transformer avec des brumiseurs, avec je sais pas quoi, ils vont les peindre en marron, en jaune, en vert. Donc vous verrez jamais, vous n'aurez jamais, c'est du mensonge. Donc je me suis dit, je vais pas faire des photos mensonges, ça serait pas bien. On n'est pas dans la peinture, on va pas être dans le mensonge. Au laboratoire, la devise du laboratoire, en gros marquée sur le mur, c'est le summum de l'intelligence, c'est la bonté et la droiture. Alors, soyons dans la bonté et la droiture. Comment on va faire pour que nos amis cuisiniers aillent jusqu'à lire ce traité qui est nécessaire ? Eh bien, on va faire des images. Ces images, ça ne sera pas des images, mais dans le fond, ça sera des applications. Et ces applications, c'est là où j'ai demandé à Pierre Gagnère, mon ami, de dire « Pierre, je te passe commande. » Alors, vous voyez, il y a eu des idées esthétiques que je combats. Par exemple, les choses sont bonnes quand elles ont le goût de ce qu'elles sont. C'est Kurnonsky qui disait ça dans les années, la fin du XXe siècle. Donc j'ai dit à Pierre, « Pierre, fais-moi un plat qui sera bon et qui aura le goût de ce que c'est. Bon. » Mais à côté, je lui dis, mais fais-moi aussi un plat qui soutiendra l'idée inverse. Et comme Pierre Gagnère est un extraordinaire cuisinier, il a été capable, d'un claquement de doigts, de me faire ces choses. Il y a, par exemple, je lui demande une recette d'un plat beau à voir et laid à manger. Pour démontrer, vous voyez, il y a cette question, le mot esthétique, c'est un mot compliqué, parce qu'on pense, plus ou moins inconsciemment, on va penser à l'esthétique visuelle. Et je combats cette idée en cuisine. Le beau à voir, je ne veux pas en entendre parler. Moi, je veux du beau à manger. Hein. Donc, je dis à Pierre, fais-moi un plat beau à voir et laid à manger, et un plat laid à voir et beau à manger. Et Pierre le fait. Et c'est pour ça que je dis, ce jeu-là, qui fait l'illustration, en quelque sorte, est unique, n'a jamais été produit. Le roman, qui est le traité d'esthétique, lui, est un ouvrage historique, puisqu'il n'a jamais eu lieu. Et que maintenant, il donne la possibilité de continuer dans cette voie-là, de creuser. Alors voilà, ce livre, La cuisine, c'est de l'amour, de l'art et de la technique.
Alors oui. Donc, c'est de l'amour, de l'art, de la technique, dans l'ordre. L'amour en premier,
ah oui,
l'art
bien
en
sûr.
Second.
Non, mais
et
bien
la
sûr, c'est de l'amour,
troisième.
Parce que, vous voyez, un soufflet gonflé, c'est bien, c'est de la technique. Mais si ce soufflet n'a pas bon goût, il ne vaut rien. Donc ça prouve que la question bon goût, ça veut dire c'est une question artistique. Hein. Donc il faut y mettre des bons ingrédients, ça veut dire ceux qu'on aime. Pour l'Alsacien, le Munster, il l'aime. Pour le Chinois, le durian est un fruit qu'il aime. Mais l'un pour l'autre, ça ne marche pas du tout. Donc l'art est au-dessus de la technique, certainement. Mais prenez un très beau soufflet, bien gonflé, donc techniquement réussi, artistiquement composé, je vous le jette à la figure en disant « mange, il n'est pas bon ». Donc ça veut dire une chose, ça veut dire une chose essentielle même, c'est que la cuisine, c'est pas du tout de faire gonfler les soufflets, c'est pas du tout de mettre les bons goûts, c'est d'abord d'aimer les autres. C'est d'aimer les autres pour faire ce que disait Brillat Savarin dans le temps, qui disait « convier quelqu'un, c'est se charger de son bonheur pendant qu'il est sous votre toit ». Alors, il n'y a pas de raison de s'arrêter pendant qu'il est sous le toit, mais il faut se charger du bonheur des autres. Et ça, c'est... Mais on pourrait dire pareil de la science, hein. La science, il faut qu'elle fasse juste, c'est de la technique. Il y a des façons de faire. La façon de faire de la science de Pierre-Gilles de Gennes, ce n'est pas la même que celle de Jean-Marie Lenne.
Donc il y a une question artistique, il y a une question de style, si vous voulez. Et puis il y a quand même qu'on fait de la science pour les autres, hein. Sinon on fait de l'industrie, c'est pas la même mission.
C'est bien le message de cette interview, donc la science à la portée de tous, je dirais la démocratiser. Hervé Tis, je vous remercie d'avoir participé à notre émission. Je rappelle bien entendu que vous venez de publier le livre « Construisons un repas » aux éditions Odile Jacob, en collaboration avec Marie-Odile Monchicourt, journaliste scientifique. Ce livre suit le dernier qui s'intitule « La cuisine, c'est de l'amour, de l'art, de la technique », paru en février 2006 aux éditions Brochet et écrit avec Pierre Gagnère, chef aux 3 étoiles. Hervé Tis, merci.
Merci.